Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, ni maître, ni mari, ni patron, dans une émission de sortir du patriarcat capitalisme, une critique radiophonique du patriarcat, du sexisme et des oppressions liées au genre et aux sexualités, et ce dans une perspective intersectionnelle, anticapitaliste et antiraciste. Et justement aujourd'hui, nous parlons d'intersectionnalité, et c'est la deuxième partie de notre émission sur ce sujet, et nous sommes toujours avec Raphaëlla et Sophia. Alors, donc, dans une première partie de l'émission, nous avons un petit peu défini ce que c'était que l'intersectionnalité. On a vu un petit peu le contexte historique dans lequel il s'était forgé, les mauvaises compréhensions de l'intersectionnalité, voilà, ses liens avec le black féminisme. Et donc maintenant, on va un petit peu élargir le spectre un petit peu des théories de l'intersectionnalité, puisque depuis son invention officielle par Crenshaw en 1989, eh bien, il y a beaucoup de théoriciennes et de courants de pensée qui se sont emparés de ce concept d'intersectionnalité. Et donc, une des choses peut-être schématiquement qu'on peut dire, c'est qu'il y a plusieurs matrices, plusieurs approches de l'intersectionnalité. Là, j'en donnerai juste peut-être trois. Une plutôt juridique, qui est donc celle de Kimberlé Crenshaw. Une plutôt post-structuraliste. Alors, donc, pour définir ce que c'est que le post-structuralisme, qu'on utilise de manière alternative à post-moderne, parce que dans les milieux militants notamment, le concept de post-moderne est utilisé à tort et à travers. Dès qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on dit qu'il est post-moderne. Donc là, en l'occurrence, post-structuraliste, ça veut dire une analyse qui ne raisonne pas en termes de structure, de domination, etc., etc., comme par exemple le marxisme, le structuralisme, le féminisme matérialiste. Donc on verra un petit peu qu'est-ce que c'est que l'intersectionnalité dans cette compréhension-là, dans cette approche-là. Et puis, troisièmement, bon, peut-être ce qui nous intéresse le plus ici, c'est une intersectionnalité matérialiste. Alors évidemment, il y a une dimension matérialiste à l'intersectionnalité de Crenshaw, mais disons une intersectionnalité matérialiste en dehors du champ juridique, donc qui est celui, cette intersectionnalité matérialiste qui est celle notamment du Combahee River Collective, même si bon, c'est plus un précurseur qu'autre chose, mais qui est aussi celui de Evelyn Nakano Glenn, voilà, pour le coup qui n'est pas une afroféministe, puis évidemment Patricia Hill Collins. Je pense qu'on a déjà bien vu un petit peu ce que c'était que l'intersectionnalité juridique de Crenshaw, peut-être on peut en rajouter des choses, mais peut-être passer à, justement, puisque j'ai évoqué ce mot un peu fourre-tout de post-structuralisme, qu'est-ce que c'est que l'intersectionnalité dans une approche post-structuraliste, et quels sont un petit peu ses apports, qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant malgré tout, même si dans une émission on est plutôt matérialiste, mais quelles sont les limites quand même de cette approche, quoi.
Bah, sur le sujet, en fait, c'est intéressant de voir que la plupart des critiques de l'intersectionnalité actuellement se réfèrent à ce que ces critiques décrivent comme une interprétation post-moderne ou post-structuraliste de l'intersectionnalité. Or, la description que ces critiques font du concept d'intersectionnalité, pour moi, en mon sens en tout cas, c'est plutôt un dévoiement, en fait, de ce concept. Parce qu'au lieu de souligner les ajouts des théoriciens postmodernes ou des théoriciennes poststructuralistes, on caricature un peu l'intersectionnalité comme ce que Crenshaw a appelé une politique identitaire sous stéroïdes. Donc, c'est-à-dire qu'on force le trait en accusant l'intersectionnalité d'essentialiser les différences, de créer des sous-groupes et de les naturaliser, par exemple femmes, noires, lesbiennes, etc., et donc à atomiser les luttes en se focalisant sur les identités individuelles et donc fractionnant les mouvements, individualisant les mouvements. Et c'est beaucoup une critique qui est faite à l'intersectionnalité, que l'intersectionnalité ne peut pas être un outil du militantisme puisque c'est un outil qui insiste sur les individualismes, qui insiste sur les identités individuelles, en disant X ne peut pas parler pour Y car X n'a pas fait la même expérience que Y, et vice-versa. Alors que ce que disent les post-structuralistes de l'intersectionnalité, et c'est précisément aussi tiré de la déclaration militante du Combahee River Collective, c'est que l'analyse en termes de classe ne suffit pas, mais qu'il faut rajouter une analyse en termes d'identité. Mais d'identité comme marqueurs sociaux, d'identité comme division sociale et d'identité comme appropriation aussi, puisque ce que disent les post-structuralistes, c'est aussi que l'identité est un outil politique, donc est un outil de revendication. Au lieu de parler de l'identité comme cet instrument politique ou cet instrument de politique de reconnaissance, pour utiliser les termes de Nancy Fraser, les critiques qui ont mal compris peut-être cette interprétation de post-structuraliste de l'intersectionnalité le caricature comme des caractéristiques essentielles ou naturelles des personnes qui font qu'un mouvement social féministe ne pourra pas s'allier à un mouvement social queer, qui ne pourra pas s'allier à un mouvement social antiraciste, etc., etc., etc. Donc je trouve qu'il y a un gros problème de confusion en fait sur ce qu'est l'intersectionnalité dans le sens post-structuraliste et sur ce qu'est l'intersectionnalité tout court au final.
Mais peut-être qu'on pourrait faire une distinction entre l'intersectionnalité post-structuraliste qui serait peut-être plus à même de comprendre et de théoriser le vécu au niveau micro des femmes noires prolétaires par exemple, tandis que le féminisme matérialisme pourrait de manière plus convaincante théoriser l'organisation structurelle des systèmes de domination, mais du coup finalement l'un ne serait que le versant de l'autre et ils s'enrichiraient mutuellement plutôt que de se confronter sur le même sujet en fait.
En fait, je pense que par rapport à ça, tout dépend, parce que là, effectivement, on dit une intersectionnalité post-structuraliste. Je pense qu'il y a des intersectionnalités post-structuralistes, disons, qui vont plutôt s'inspirer de Foucault, où il y a quand même, chez Foucault, une dimension matérielle en termes de rapports de pouvoir. Et là, effectivement, l'analyse des rapports de pouvoir à un niveau micro, elle est parfaitement complémentaire d'une analyse des rapports de domination à un niveau macro. Par contre, c'est vrai qu'un postmodernisme qui est plutôt... voilà, focalisé sur le discours, l'identité, peut-être va être moins, va être plus en confrontation et en opposition avec une analyse matérialiste. Encore que on peut faire, comme pas mal de marxistes post-structuralistes le font, dire que les discours sont aussi des forces matérielles, et ça de manière assez convaincante.
Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que donc, quand on parle de politique identitaire, ce qui en anglais donne identity politics, on en réfère souvent au manifeste du Combahee River Collective comme la source de la théorisation de la politique identitaire, comme un outil qui utiliserait en fait les marquages identitaires ou les démarcations en termes de division sociale comme des instruments politiques de visibilité, de reconnaissance, etc. Et ce que dit le manifeste du Combahee River Collective, c'est pas seulement que l'identité doit être utilisée comme un outil politique, mais c'est aussi une déclaration marxiste, puisque dans le Combahee River Collective, dans leur manifeste, ils se revendiquent clairement du marxiste. Et donc c'est pas une confrontation avec le marxisme, mais c'est une extension des théories révolutionnaires marxistes ou marxiennes par l'ajout de l'identité comme un instrument politique. Et donc, en fait, ces deux éléments, le matérialisme et l'identité qu'on pourrait apparenter au courant post-structuraliste par la suite, qui viendra par la suite, on les oppose souvent, mais en fait, à l'origine, ils étaient combinés pour donner naissance à une théorie de la anti-oppression ou une théorie de la révolution plus riche et plus fidèle aux réalités sociales qui sont complexes en termes de division sociale.
Oui, et ça, c'est vraiment... intéressant ce que tu as dit, parce que souvent on voit dans les milieux militants ou chez des théoriciens marxistes une critique très véhémente des identity politics ou de la postmodernité et tout, alors que sans vouloir être méchant, on peut pas dire que la théorie marxiste soit exempte de toute forme d'identitarisme, la glorification de la figure de l'ouvrier qui a pris des proportions évidemment aberrantes avec le stalinisme et le stakhanovisme. C'est vrai qu'on peut dire qu'il y avait une dimension identitaire très forte dans le mouvement ouvrier et qui a été parfois extrêmement problématique. Par exemple, ça amoindrit évidemment la critique de ce qu'il peut y avoir d'aliénant dans le travail puisque c'était une espèce d'affirmation de l'identité de travailleur. Donc évidemment, la critique du travail salarié ou de l'aspect aliénant du travail est passée un peu à la trappe. Finalement, de cette affirmation d'identité ouvrière excessive, le mouvement ouvrier a fini par penser le socialisme comme le socialisme, c'est travailler plus. C'était ça que disaient les marxistes-lénistes dans les années 20. Et donc, je pense que c'est un petit peu douteux de la part des marxistes de critiquer les identity politics. Et aussi, je pense que l'enjeu n'est pas tellement la question de est-ce qu'un mouvement est identitaire, entre guillemets, ou pas, mais plutôt de quelle est sa compréhension implicite ou explicite de l'identité. Il peut y avoir, disons, un rapport à l'identité intersectionnelle qui est matérialiste, par exemple chez Christine Delphi, évidemment qu'il y a un sujet, il y a une identité, nous les femmes, évidemment qui a été critiquée ensuite par l'intersectionnalité, mais disons que ça pourrait être dans le Combat River collectif, nous, femmes noires, prolétaires, lesbiennes. Mais évidemment, le but de cette revendication identitaire, c'est d'abolir les oppressions qui sont constitutives précisément de cette identité. C'est pas de dire on veut toujours être des femmes noires, prolétaires, victimes de l'hétéropatriarcat. Après, une deuxième conception de l'identité, une conception post-structuraliste, enfin en tout cas c'est ce que par exemple Dorlin développe quand elle critique l'intersectionnalité. Elle dit le problème de l'intersectionnalité, c'est que ça appelle finalement, alors elle aussi dans une critique qui moi me paraît complètement à côté de la plaque, mais soi-disant l'intersectionnalité appellerait finalement les femmes racisées prolétaires à s'identifier, à s'enfermer dans ces identités et finalement à ne pas subvertir leur identité, etc. Et c'est vrai que là en l'occurrence ce serait un rapport un peu post-structuraliste aux identités, enfin en tout cas chez Zadorlin, de finalement on doit s'éloigner de ces, enfin on doit se défier de ces identités, on doit les subvertir, même si évidemment en termes de mobilisation politique, ça pose un problème, parce que si on ne se mobilise pas de par les catégories sociales créées par les oppressions, on se mobilise à partir de quoi? Et là, c'est là où la théorie post-structuraliste est un peu à côté de la plaque.
Oui, la compréhension du concept d'identité, là, je pense qu'elle est vraiment clé. Parce que le problème de certaines critiques qui, selon moi, dévoient le concept d'intersectionnalité et son potentiel critique, c'est la compréhension du terme identité comme une catégorie figée. Alors que précisément, les analyses intersectionnelles tendent à utiliser ce concept d'identité pour analyser de quoi il est constitué et quel rapport de pouvoir il recouvre. Et donc, en fait, plus qu'une identité, quand on parle d'intersectionnalité ou quand on fait une analyse intersectionnelle, on parle de marquage social, de division sociale, de positionnement social. Et donc, on parle de pouvoir au final. Le concept qui est au centre de ces analyses-là, c'est le concept de pouvoir. Et où suis-je placé dans le tissu social en termes d'avantages, de privilèges, de désavantages et d'oppression? Donc, ce terme d'identité, il est un peu utilisé comme un terme fourre-tout, puisque évidemment, il y a une part très personnelle, il concerne une part très personnelle de nous, de notre processus d'identification, de définition sociale, mais il concerne aussi tout un travail politique de représentation et de réflexion sur notre positionnement social. Donc, pour moi, le concept d'identité tel qu'il est utilisé dans la théorie intersectionnelle ou dans les théories intersectionnelles, c'est plus un proxy pour décrire toute une analyse beaucoup plus complexe en termes de rapports sociaux. Et je pense que c'est aussi ce que les post-structuralistes ont eu tendance à dire, même s'ils ont été critiqués pour ça. L'identité, c'est pas quelque chose d'essentialisé, de naturalisé, c'est quelque chose de construit. Et donc, l'analyse intersectionnelle va chercher à déconstruire cette identité. Et par cette déconstruction, ce processus de déconstruction, à mettre au jour des dynamiques d'oppression et d'inégalité.
Oui, et par rapport à ça, justement, on voit que, c'était aussi un des points que je voulais faire précédemment, c'était que, en fait, finalement, l'analyse post-structuraliste et l'analyse essentialiste, qu'on rapproche abusivement, en fait, sont complètement opposées. Et donc, d'une certaine manière, à la fois l'intersectionnalité matérialiste et l'intersectionnalité post-structuraliste s'opposent, bien que de manière différente, à une intersectionnalité essentialiste, qui d'ailleurs, bon, on la voit pas trop en tout cas, bon, c'est un petit peu un fantasme, une figure un peu repoussoire. Et justement, par rapport à la question de la construction et de la déconstruction, peut-être que ce qui sépare quand même l'analyse matérialiste, en tout cas l'intersectionnalité matérialiste et l'intersectionnalité post-structuraliste, c'est que, disons que la déconstruction dans le cadre d'une analyse matérialiste, c'est de dire derrière cette identité, il y a ces rapports de domination. Et du coup, il s'agit d'aboutir à une forme de déconstruction matérielle, c'est-à-dire en fait de détruire le rapport de domination qui est constitutif de cette identité, et de cette identité notamment intersectionnelle. Et par contre, dans le post-structuralisme, une critique qui pour moi ne me paraît pas complètement irrecevable, c'est que parfois, dans l'idée de déconstruction, par exemple chez Judith Butler, il y a l'idée qu'il s'agit effectivement de questionner, de critiquer l'identité, une identité qui est constituée par des rapports de pouvoir, mais sans qu'il y ait finalement la possibilité, mais ça c'est lié un peu à la théorie de Foucault aussi du pouvoir, que le pouvoir est partout et qu'on ne peut pas vraiment en sortir. Donc finalement on peut y résister, on peut jouer, on peut troubler les identités. Donc là, pour moi, j'y vois une opposition, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on voit aussi des formes de pensée aussi un petit peu hybride entre les deux, comme Patricia Hill Collins, où là, finalement, il y a une référence aussi à Foucault, rapport de pouvoir, et en même temps, une perspective un peu matérialiste, entre guillemets, de « il faut en finir avec ces systèmes d'oppression ».
Je ne suis pas nécessairement d'accord avec l'opposition entre... une intersectionnalité matérialiste et une intersectionnalité post-structuraliste, même si je sais que, bien évidemment, ces deux courants se sont définis l'un par rapport à l'autre et l'un en contradiction de l'autre. Mais j'ai l'impression que, justement, en fait, on peut enrichir le concept en prenant, par exemple, comme instrument la théorie de Mouffe sur les constellations, ou le discours comme constellation de pouvoir, et donc l'utilisation du discours comme un instrument de résistance à certaines configurations du pouvoir. Donc, par exemple, utiliser l'identité ou les identités comme un moyen de résistance en exposant, par le processus de la déconstruction, les rapports sociaux qui y sont liés, et en utilisant la représentation et le discours pour les reconfigurer. Donc, par exemple, utiliser un stéréotype, le déconstruire, en montrer tous les enjeux, et le reconstruire de manière différente, d'une manière qui soit en opposition. Par exemple, si on pense au mouvement du black féminisme, donc ce que vous avez évoqué plus tôt en parlant des stéréotypes dégradants par rapport au corps des femmes noires, à leur non-féminité, à leur bestialité, etc., en reprenant ce stéréotype, en le déconstruisant, en exposant tous les enjeux de pouvoir et aussi tout le caractère fallacieux, et en le reconstruisant en utilisant l'image de la femme noire, comme par exemple, on a beaucoup parlé de Beyoncé comme quelqu'un de féministe qui utilise son corps et sa féminité pour revendiquer une féminité afro-féministe. Donc par exemple, jouer sur ces représentations, sur les discours et les utiliser comme des stratégies de résistance. Ça, pour moi, ça serait un enjeu post-structuraliste, intersectionnel, qui pourrait enrichir une théorie, bien évidemment, nécessairement matérialiste de l'intersectionnalité.
Oui, par rapport à ça, effectivement, c'était simplement pour souligner qu'il y avait évidemment quand même des divergences entre, disons, les féministes qui se revendiquent du matérialisme et les féministes qui se revendiquent du post-structuralisme. Mais évidemment qu'il y a des hybridations qui sont, à mon avis, assez intéressantes, bon, notamment sur le fait que, disons, qu'il peut y avoir des tendances, disons, du côté du matérialisme comme du côté du post-structuralisme, si elles sont poussées au bout, à tomber dans une forme de réductionnisme. Par exemple, un matérialisme qui ne prendrait pas du tout en compte la question des idéologies et des discours serait évidemment très réductionniste. C'est-à-dire, c'est comme ça que il y a un certain marxisme qui est devenu une forme d'économicisme, de réduction de tout aux dites infrastructures économiques. Et c'est vrai que, par exemple, là-dessus, le marxisme qu'on dit post-structuraliste a ça d'intéressant que, justement, il montre que en fait, le discours et les idéologies comptent vraiment, que ce sont des forces matérielles et que, comme tu disais, placer la lutte au niveau, au moins en partie, hein, au niveau des idéologies, des discours, des stéréotypes, c'est pas simplement un truc petit bourgeois qui n'a aucun intérêt et tout, mais que ça peut être un vrai enjeu de lutte. Et par rapport à cette symbiose, le truc que je trouvais intéressant, mais ça fera l'objet d'une autre émission, c'est toutes les tentatives de matérialiser la théorie queer, même si bon, ça c'est quelque chose qui est un peu différent, mais disons de corriger la tendance parfois qu'il y a eu dans les théories queer ou post-structuralistes, un peu oublier les inégalités sociales et économiques, les oppressions de classe, etc. Et effectivement, je suis d'accord avec toi que en vrai, c'est pas une opposition absolue et que ça peut être fécond d'hybrider les deux.
Mais j'ai l'impression que dans cette discussion, on a assimilé le matérialisme au black féminisme. Mais j'ai l'impression, en lisant parfois Patricia Hill Collins, qu'elle-même est parvenue à synthétiser le matérialisme et le post-structuralisme quand elle propose justement que l'intersectionnalité doit prendre en compte plusieurs domaines du pouvoir qui sont structurels, disciplinaires, hégémoniques, dont dans hégémonique elle inclut culturel et idéologique et interpersonnel. Et du coup, quand elle établit cette dichotomie, on ressent une influence post-structuraliste très forte.
Oui, et par rapport à ça, je pense que cette hybridation, elle est aussi, elle est aussi nécessaire aussi pour éviter de tomber dans des critiques qui, moi, me paraissent un peu dangereuses, par exemple de la part de militants d'extrême gauche, en disant non mais finalement le combat queer ou le combat LGBT ou le combat des féministes noires, c'est un combat réformiste. Et donc finalement petit bourgeois, ça n'a aucun intérêt, etc., etc. Alors que évidemment il peut y avoir une dimension réformiste à ces mouvements, mais j'ai envie de dire, dans le mouvement ouvrier, les tendances réformistes, elles existent, elles sont aujourd'hui, elles sont majoritaires de manière écrasante. Et oui, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de combats qui sont menés, notamment dans une perspective intersectionnelle, sur des terrains qui, effectivement, sont légalistes ou pour obtenir des droits, etc. Mais en fait, c'est aussi lié à un contexte général qui est qu'on n'est pas dans le contexte des années 70 aujourd'hui. On n'est pas dans un contexte révolutionnaire ou pré-révolutionnaire. Et donc, en réalité, le mouvement ouvrier fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il demande des droits. C'est simplement pour répondre à une critique qui est souvent faite, je trouve, de l'intersectionnalité dans l'extrême-gauche, c'est qu'elle serait une théorie qui irait bien avec un mouvement un peu réformiste, une convergence des luttes qui se contenterait de demander des droits et quelques avantages sociaux. Alors que l'intersectionnalité, n'est pas intrinsèquement réformiste, deux, les mouvements qui s'en réclament, effectivement, une dimension réformiste, mais comme tous les mouvements sociaux aujourd'hui, parce qu'on n'est pas dans une période révolutionnaire, et trois, si la période devenait plus révolutionnaire, évidemment que l'intersectionnalité aurait tendance, comme elle l'a fait dans les années 70, avec le manifeste du Combat River Collective, à se radicaliser, à devenir plus révolutionnaire, quoi.
Juste une petite précision par rapport à notre utilisation du terme intersectionnalité. On a tendance à résumer l'intersectionnalité comme une autre grande théorie sociale, alors que vraiment l'intersectionnalité c'est un outil conceptuel, un instrument qui s'inscrit et qui se nourrit des différentes théories sociales, théorie de la justice, théorie de l'égalité, etc., qu'on connaît et dont on a absolument besoin pour parler d'intersectionnalité. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'intersectionnalité comme une théorie en elle-même, mais bien plutôt comme une approche analytique. Et de ce fait, au tout début, tu avais mentionné l'existence de différentes matrices. Alors je ne sais pas si on peut vraiment parler de matrice de l'intersectionnalité, mais dans tous les cas, on peut dire que l'intersectionnalité s'inscrit dans différents courants politiques, idéologiques, théoriques, et que comme ces courants sont en constante évolution, c'est un concept qui a été maintes et maintes fois réapproprié, remodelé, etc. Et donc c'est un concept dont la signification varie en fonction de son contexte. Et c'est toujours vraiment important de mentionner dans quel contexte on parle de l'intersectionnalité pour bien comprendre quels en sont les enjeux et les tenants et les aboutissants politiques et idéologiques.
Oui, par rapport à ça, c'est vrai que l'intersectionnalité a été beaucoup critiquée notamment dans les milieux militants d'extrême gauche, comme étant un concept qui finalement était devenu un peu à la mode, qui serait utilisé par les institutions européennes, par les institutions de la mondialisation néolibérale. Mais en vrai, une bonne partie des concepts, à part les concepts extrêmement techniques, sont récupérés. Le concept de genre reste quand même un concept subversif, mais oui, effectivement, il est récupéré. Je veux dire, dans l'INSEE, on peut aussi parler de classe sociale, c'est pas ça qui va faire que le concept de classe est vidé de toute substance. Et du coup, effectivement, comme tu disais, l'intérêt, c'est aussi de définir qu'est-ce qu'on entend par intersectionnalité, comment est-ce qu'on l'utilise.
Et d'ailleurs, de même que, peut-être une petite précision, puisqu'on est dans un contexte français, on a beaucoup utilisé le terme de race, qui est un terme qui est aussi un terme ambivalent, parce que c'est un terme qui peut correspondre à des réalités racistes, donc à un usage raciste, comme prétendue réalité biologique, ce qui bien sûr n'est pas vrai. Et alors ça, c'est un premier usage, et c'est souvent l'usage que les gens comprennent de prime abord, alors que la race, c'est aussi une catégorie critique, d'analyse critique. Et donc, parler de race, c'est parler de racisme, et donc analyser différentes interactions à travers le prisme du racisme. Et ça, je pense que c'est important de le mentionner, notamment au vu des débats sur la suppression du concept de race de la Constitution française. Et c'est la même chose que le terme genre par rapport au terme sexe. Donc c'est vraiment un outil d'analyse critique. Je pense que c'était important de le mentionner.
Oui, c'est effectivement hyper important de le préciser, parce que c'est vrai que aux États-Unis, ou dans une partie maintenant quand même relativement importante des milieux militants français, évidemment, on entend par race une construction sociale qui est le produit d'une oppression matérielle, idéologique, politique, etc. Mais c'est vrai que, voilà, pour notamment, et là il faut encore critiquer une partie des milieux militants et même de la société française en général, le fait de remettre le concept de race sur la place publique, ce serait être raciste, alors qu'en réalité, le fait de refuser l'utilisation critique de ce concept, c'est en réalité en fait empêcher tout débat autour du racisme, outre que les débats sur simplement le FN est raciste ou telle personne est raciste, en faire simplement une espèce d'attitude individuelle un peu pathologique, et finalement empêcher tout débat. Et parfois, il faut le dire, dans les milieux militants, cette espèce de phobie du concept de race a servi à rejeter en bloc l'antiracisme matérialiste et politique, et aussi, par la même occasion, l'intersectionnalité. Et d'ailleurs, cette phobie du mot race, elle va de pair un petit peu dans l'extrême gauche avec une phobie de toute forme d'affirmation d'une identité. À part, étrangement, la classe ouvrière, là par contre, il n'y a pas de problème, on peut se revendiquer de la classe ouvrière, mais alors toute autre forme de revendication entre guillemets identitaire est critiquée. Alors donc, du coup, ça permet évidemment d'empêcher la critique antiraciste et la critique féministe, enfin disons les critiques conséquentes du racisme et du sexisme, de se faire. C'est un petit peu finalement la critique que Dorlin aussi fait, paradoxalement. Pourtant Elsa Dorlin, travaux extrêmement intéressants, mais dans un article de 2005, elle critique l'intersectionnalité. Et en l'occurrence, elle critique le fait que des femmes racisées prolétaires vont s'emparer de l'intersectionnalité pour s'affirmer en tant que femmes noires prolétaires. Elle critique ça comme une forme de réification, de revendication d'une identité figée qui serait contre l'émancipation. Et donc elle propose une autre voie de l'émancipation, justement, de se défier justement de ces identités. Et bon, moi, ça m'a paru un petit peu très idéaliste de croire que les gens vont pouvoir abattre des oppressions en refusant d'admettre qu'ils sont des produits intersectionnels, en l'occurrence, de ces oppressions.
Alors que justement, l'un des principaux combats aussi de l'intersectionnalité, c'était ce que tu disais, Raphaëlla, tout à l'heure, de veiller à l'absence d'invisibilisation des populations opprimées, alors que si en plus on demande à ces mêmes populations de refuser de se reconnaître en tant que population opprimée de manière intersectionnelle, elles-mêmes participent encore plus à leur invisibilisation, si je peux dire.
Et de plus, la critique que fait Dorlin sur ce point pour moi, c'est plus une critique du droit antidiscriminatoire qu'elle prend pour objet d'étude qu'une critique réellement de l'intersectionnalité, parce qu'elle critique l'usage de catégories figées. Mais dans le droit de la non-discrimination, il y a des catégories figées qui servent de catégories de protection. Donc, en tant que juge, quand on a un cas de discrimination face à soi, on a le choix entre différentes catégories protégées. Donc, on a parlé de la race, de l'origine ethnique, du sexe, de l'âge, de l'orientation sexuelle, de la religion, etc. etc. Et ces catégories-là sont nécessairement, un, des catégories liées à l'identité, et deux, des catégories figées. Mais ça ne veut pas dire que l'analyse sociologique qui va en résulter sera une analyse figée. Ça veut dire que ces catégories servent de proxy pour saisir des rapports d'inégalité. Et donc c'est un instrument juridique et un instrument vraiment pragmatique et pratique. Et de là, une analyse plus dynamique des rapports sociaux est tout à fait possible. Donc par exemple, si on prend la catégorie du genre, on peut très bien analyser le droit de la famille et le mariage en termes d'exploitation du travail domestique, d'exploitation du corps de la femme et de ses capacités de procréation, etc. etc. Donc le fait qu'il y ait des catégories figées dans le droit ne veut pas dire que l'analyse antidiscriminatoire qui va en découler sera une analyse figée des rapports sociaux. Mais tout l'enjeu de l'intersectionnalité, et c'est aussi ce que dit Crenshaw dans son article, c'est de saisir comment ces rapports sociaux se configurent à travers ou par le biais de ces différentes catégories. Donc comment la catégorie de sexe dans le droit antidiscriminatoire américain permet ou ne permet pas, en l'occurrence, de saisir le licenciement massif et de protéger les victimes d'un licenciement massif de toutes les employées noires d'une compagnie X aux États-Unis. Donc l'enjeu, c'est moins la catégorie qui est figée nécessairement pour les besoins du droit que l'analyse sociologique qui va y avoir derrière.
Mais finalement, peut-être l'intersectionnalité, ça permettrait de défiger ou de moins figer des catégories sociales déjà figées par le droit. C'est-à-dire que grâce à une analyse intersectionnelle des droits de la non-discrimination, on pourrait, entre guillemets, qualifier une personne non pas en fonction seulement de son genre ou seulement de sa race, mais en fonction de son genre et de sa race de manière combinée, ce qui permettrait de défiger à la fois la catégorie genre et la catégorie race en les combinant et en les analysant de manière combinée.
Oui, c'est vrai qu'au moins, même ne serait-ce que dans le domaine du droit, même si on reprend l'intersectionnalité telle qu'elle est appliquée dans le domaine du droit, au moins ça complexifie la question des oppressions, etc. Et finalement, la critique de Dorlin est dans cet article de 2005, elle est un petit peu malvenue, parce que d'un côté, elle critique l'intersectionnalité telle qu'elle est utilisée en droit par en droit de la non-discrimination par Crenshaw, sous prétexte que du coup ça donnerait une analyse sociologique qui oublierait tout l'aspect dynamique et mouvant et imbriqué des rapports de pouvoir, sachant qu'en fait c'est juste pas l'objet de l'usage de l'intersectionnalité par Crenshaw dans le droit de la non-discrimination. Et d'un autre côté, elle passe un peu sous silence ce que justement l'approche de Crenshaw a apporté en matière de lutte contre les discriminations. Peut-être on peut rapidement en dire quelque chose.
De fait, l'intersectionnalité, elle a un enjeu spécifique au droit, notamment dans les travaux de Crenshaw. Alors, par un apport de visibilité aux populations discriminées, donc Crenshaw, elle analyse la manière par laquelle le droit antidiscriminatoire rend invisible et donc vulnérable certaines minorités placées aux intersections de certaines catégories protégées, en l'occurrence le sexe et la race, puisqu'elle prend l'exemple du cas de licenciement que j'ai mentionné tout à l'heure, et explique comment les femmes licenciées, qui se trouvaient être des employées femmes noires, que les juges ont refusé de les inclure dans la catégorie sexe, puisque les femmes blanches n'étaient pas discriminées, et de les inclure dans la catégorie race, puisque les hommes noirs n'étaient pas discriminés. Donc, ces femmes noires qui étaient licenciées n'ont pas pu trouver justice à travers le droit antidiscriminatoire, puisque chaque catégorie ne saisit que partiellement les oppressions. Donc la catégorie race, qui est protégée par le droit antidiscriminatoire, saisit le racisme contre les hommes noirs qui deviennent la norme et donc qui ignorent les femmes. Et vice-versa, la catégorie sexe, la norme de cette catégorie, c'est la femme blanche, et donc cette catégorie ignore les femmes racisées. Et donc ça, c'est l'argument de la visibilité que Crenshaw montre bien dans ses articles. Et plus largement, en droit, l'intersectionnalité complexifie le droit antidiscriminatoire en reconceptualisant la discrimination comme un phénomène pas unidimensionnel, mais pluridimensionnel, et donc en introduisant une explication qu'un critère protégé n'intervient dans un phénomène de discrimination jamais en isolation. Donc il intervient toujours en synergie avec d'autres critères. Par exemple, les stéréotypes sexistes qui sont au fondement de certaines discriminations ne sont jamais des stéréotypes sexistes qui sont indépendants des rapports sociaux liés à la classe, au sexe, au statut social, à l'orientation sexuelle, à l'âge. On connaît tous des stéréotypes qui jouent sur l'âge des femmes, qui jouent sur l'orientation sexuelle des femmes, etc., etc. Donc en fait, dans le droit antidiscriminatoire, l'intersectionnalité, elle complexifie l'analyse en introduisant cette synergie entre différentes catégories. Et enfin, l'intersectionnalité dans le droit invite les juges à considérer, enfin selon moi, la co-constitution en général des rapports sociaux qui conduisent à la discrimination.
Oui, du coup, finalement, dans le domaine du droit, ça a permis de s'attaquer, de saisir et de combattre un plus grand nombre de cas de discrimination, puisque finalement, le droit antidiscriminatoire, avant l'intersectionnalité, d'une certaine manière, s'attaquait uniquement aux discriminations subies par les femmes blanches, hétérosexuelles, etc., et les hommes noirs, hétérosexuels, etc., alors que maintenant, avec l'intersectionnalité, justement, on peut s'attaquer à l'ensemble, enfin à un nombre beaucoup plus important de situations de discrimination. Et évidemment que on peut dire que évidemment c'est pas ça qui va résoudre tous les problèmes du patriarcat, du racisme et du capitalisme. Mais bon, tant qu'on est dans cette société capitaliste, patriarcale et raciste, c'est quand même mieux qu'il y ait un peu moins de discrimination.
Et pour juste donner une précision par rapport au rôle de l'intersectionnalité dans le droit. Il a un rôle vraiment spécifique puisqu'il permet, enfin ce concept, de dépasser certains obstacles, notamment en termes de procédure, de charge de la preuve, etc. Donc c'est un peu spécifique, mais prenons l'exemple d'un handicap genré, comme il en existe beaucoup, donc un handicap qui serait de nature à n'affecter qu'un seul genre, par exemple un handicap reproductif ou qui soit vraiment un handicap associé au genre. Et bien en fait, pour prouver une discrimination sur la base de ce handicap genré, il va falloir le plus souvent introduire un argument intersectionnel pour montrer l'interdépendance des catégories protégées à l'œuvre. Et donc en droit, en fait, l'intersectionnalité a vraiment une fonction tout à fait particulière.
Et finalement, en fait, ce que tu dis, ça permet de comprendre un peu mieux ce que théorise Sylvia Walby quand elle parle de semi-indépendance analytique des systèmes d'oppression. Que finalement, effectivement, il s'agit de théoriser les ontologies de la race, du genre et de la classe, sans oublier que, sur certains points, ces systèmes de pression sont interconnectés et que de les analyser de manière complètement libre, comme le souhaiterait une partie des post-structuralistes, n'a pas vraiment de sens, mais que finalement, à la fois d'un point de vue théorique, mais aussi d'un point de vue très pratique dans le droit, ces systèmes sont interconnectés.
Oui, alors justement, simplement pour préciser le concept d'ontologie... qui fait partie du vocabulaire technique de la philosophie, du coup c'est pas le concept le plus simple. Du coup, ontos c'est l'être en grec, et logos donc c'est le discours, et du coup c'est un discours, c'est un peu un discours sur la réalité sociale dans ce cas-là. Et donc ça peut être un discours qui va être unitaire, qui va dire tout découle du capitalisme, ou tout découle du racisme, ou tout découle du patriarcat, un discours fragmentaire, on va dire... en fait, ça découle en partie du patriarcat, et puis en partie du racisme, et puis en partie du capitalisme. Et ça peut être aussi intersectionnel, en disant bah ça découle de l'imbrication, de l'interrelation des trois. Mais après, c'est vrai que ce qui est intéressant chez Walby, c'est que dans l'intersectionnalité, on dit il y a imbrication des systèmes de domination, mais on ne dit pas de quelle nature est cette imbrication. Est-ce que c'est une imbrication structurelle ou est-ce que c'est conjoncturel? Il y a plein de débats là-dessus. Rien que entre l'imbrication entre patriarcat et capitalisme, ça fait des débats gigantesques dans les années 70-80 entre féminisme matérialiste, féminisme marxiste. Mais ce qui est intéressant, je dirais, dans le concept de semi-indépendance analytique de Walby, c'est qu'elle dit au niveau de l'analyse, il faut avoir entre guillemets une théorie du patriarcat et une théorie du capitalisme qui soient distinctes. Le capitalisme comme domination impersonnelle du marché, comme exploitation de classe, etc. Et le patriarcat comme domination de la classe des hommes sur la classe des femmes, comme exploitation domestique, sexuelle, reproductive, etc. Le fait de dire c'est des systèmes distincts, ça a permis de sortir de la théorie unitaire qui permettait aux marxistes de dire « Non, mais en fait, finalement, le patriarcat, c'est uniquement un truc fonctionnel au capitalisme. Finalement, ceux qui bénéficient de l'oppression des femmes, c'est les capitalistes et pas les hommes. » Et ça a permis de sortir aussi de l'illusion, évidemment, que la révolution socialiste résoudrait tous les problèmes. Mais d'un autre côté, avec Sylvia Walby, on échappe quand même à l'idée que finalement, tous ces systèmes n'ont aucun lien structurel entre eux, et que c'est juste que, bon, dans la réalité, ils se mélangent, mais sinon, ça n'a aucun sens. Puisque ce qu'elle dit globalement, c'est qu'il y a une partie du patriarcat et une partie du capitalisme et une partie du racisme qui s'interpénètrent d'une certaine manière. On peut bien parler d'un patriarcat raciste, d'un capitalisme raciste, de manière structurelle, et que sur certains aspects, patriarcat et capitalisme peuvent diverger. Par exemple, bon, peut-être que le patriarcat aurait intérêt à ce qu'il n'y ait pas du tout de travail salarié des femmes, alors que le capitalisme a quand même intérêt à ce qu'il y ait du travail salarié des femmes. Mais là où ils se retrouvent, et c'est là où ils sont structurellement liés, c'est que en fait, les deux ont finalement intérêt à ce que les femmes fassent une double journée avec un travail salarié à mi-temps ou de toute façon déqualifié, dévalorisé. Et finalement, tout le monde s'y retrouve, et c'est un petit peu d'ailleurs ce que montre Sylvia Walby, une espèce de compromis qui se forge au 19e siècle en Angleterre entre capitalisme et patriarcat, qui fait que, ok, d'accord, du côté du capitalisme, les intérêts des capitalistes sont satisfaits parce qu'ils ont de la main-d'œuvre féminine, mais d'un autre côté, pour le patriarcat, cette main-d'œuvre féminine ne gagnera pas suffisamment d'argent et aura un travail suffisamment dévalorisé et déqualifié pour qu'en fait les femmes ne soient pas capables d'être indépendantes économiquement des hommes. Et justement, puisqu'on parle de Sylvia Walby et de semi-indépendance analytique, alors peut-être pour préciser, du coup, ça veut dire que là, on raisonne au niveau des grandes théories. Évidemment, ce que Sylvia Walby dit, c'est que au niveau des grandes théories, il faut donc ce modèle un petit peu d'indépendance, mais en même temps d'imbrication des systèmes d'oppression, mais qu'après, dans la réalité, évidemment, tout se mélange, entre guillemets. Et là, ça nous amène, évidemment, à la critique de l'intersectionnalité qui a été formulée par Danielle Kergoat et Elsa Galeran, et aussi une autre féministe québécoise, en termes de consubstantialité des rapports sociaux. Alors, on a utilisé ce concept donc, qui est emprunté à la théologie pour faciliter les choses. On comprend pourquoi ce concept a aussi moins bien marché, parce que se dire « moi je suis consubstantialiste », c'est quand même un peu ridicule par rapport à se dire « je suis féministe intersectionnelle », c'est quand même plus simple. Mais au-delà de ça, bon, globalement, la critique que font donc Kergoat, Juteau et Galeran de l'intersectionnalité, c'est que finalement, ce serait pas assez dynamique, ça continuerait de séparer les systèmes d'oppression, que finalement, tout ça avait déjà été théorisé par les féministes françaises dès les années 70-80. Bon, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que, d'une part, ces critiques réduisent beaucoup l'intersectionnalité à sa caricature post-structuraliste. D'autre part, c'est très séduisant de dire, en fait, les rapports sociaux sont consubstantiels, on ne peut jamais les séparer. Mais, d'un point de vue théorique, dire tout est dans tout et réciproquement, même si, évidemment, elles se défendent de dire ça, mais dire tout est dans tout, tous les rapports sociaux se mélangent, se coproduisent, s'imbriquent, c'est intéressant, mais, pour analyser la réalité sociale, c'est pas très utile, quoi. À la limite, il vaut mieux le modèle de Walby, qui est quand même beaucoup plus pertinent, qui permet à la fois de montrer la complexité de la réalité, et en même temps d'avoir quand même des théories du patriarcat, du capitalisme, qui sont un petit peu claires et distinctes. Parce que finalement, moi, je soupçonne un petit peu que cette critique marxiste de l'intersectionnalité, ce soit encore finalement une manière de dire que finalement la classe, c'est quand même plus important. C'est pas dit, mais c'est vrai qu'il y a quand même, on peut avoir un peu ce sentiment qu'au moins la classe et puis éventuellement le genre, c'est quand même plus important. Et c'est vrai que dans la manière dont Kergoat a théorisé la consubstantialité, même si elle dit que finalement elle avait tout dit avant l'intersectionnalité, fort est de constater que la race, elle l'avait oubliée. C'est juste qu'elle l'a rajoutée après, quand il a fallu, après l'intersectionnalité.
Mais peut-être que si on rapproche le développement de la consubstantialité avec l'histoire du développement de l'intersectionnalité et qu'on prend en compte l'absence de point de vue situé de femmes racisées au moment du développement des théories consubstantielles, simplement par ça, on pourrait dire que l'intersectionnalité était nécessaire dans le sens où il a fallu en 80 la publication de Femmes, Race et Classe et de Ne suis-je pas une femme pour développer une histoire des femmes noires et qu'ensuite ces femmes noires dont le point de vue situé n'était encore une fois pas apparent chez les féministes blanches françaises aient pu théoriser à leur tour leur intersectionnalité. Et si effectivement il y a peut-être certains points qui se recoupent avec la consubstantialité, le fait est que la race n'était pas à leur sens suffisamment développée pour couvrir leur réalité sociale.
Oui, d'ailleurs, juste simplement pour un point, c'est intéressant de voir que Daniel Kergoat, dans une note de bas de page d'un de ses articles dans Actuel Marx sur la consubstantialité des rapports sociaux, dit qu'elle, elle a expérimenté d'une certaine manière la consubstantialité des rapports sociaux quand elle était sociologue et militante ouvrière, en disant qu'elle n'arrivait pas trop à séparer ce qui relevait de la dimension de classe et de la dimension de genre. Sauf que ça fait 2, et ça fait pas 3, et ça fait encore moins 4, etc., etc.
Et ce qui est intéressant, en fait, là où ces analyses-là sont intéressantes, c'est qu'elles présentent vraiment explicitement certaines difficultés, certaines confusions qui sont liées au concept d'intersectionnalité. Par exemple, les politiques de production du savoir. Donc, le fait que le savoir en France ou le concept de race n'était pas un concept prévalent sur le plan analytique, mais qu'il l'était aux États-Unis ou bien en Grande-Bretagne, et que c'est là que les productions de savoir intersectionnelles avec la racialisation comme élément constitutif se sont développées. Alors qu'en France, on a bien plus un féminisme matérialiste, et c'est d'ailleurs le grand reproche des féministes intersectionnelles noires, américaines, britanniques, etc., par rapport au féminisme atlantique ou au féminisme européen, c'est l'oubli de cette dimension centrale qu'est la race.
Mais même au sein, je dirais, de la France, au sein des mouvements, du mouvement de libération des femmes en France, la race était clairement laissée pour compte. Et du coup, dans le développement du féminisme français, il était blanc de facto. Et du coup, forcément, ça revient tout à fait ce que tu dis.
Et là, on peut avoir presque une espèce d'explication matérialiste un petit peu de ça, dans le sens où, aux États-Unis, le mouvement de lutte des femmes noires a été beaucoup plus visibilisé et important par rapport à en France, où il y a bien eu un mouvement, même plusieurs mouvements de femmes racisées qui ont été complètement marginalisées et oubliées d'ailleurs, alors qu'il y avait déjà eu quand même des productions un petit peu théoriques là-dessus.
C'est pour ça que je dis l'absence du concept de race sur le plan analytique, parce que sur le plan militant, effectivement, il y a eu des mobilisations qui ont été, comme tu dis, marginalisées. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point certaines hégémonies jouent un rôle dans l'effacement ou la découverte, entre guillemets, de certains savoirs. Donc, par exemple, la couleur que va prendre l'intersectionnalité en France n'est pas du tout la même à cause des rapports sociaux et des hégémonies que celle que l'intersectionnalité va prendre en Grande-Bretagne, par exemple.
Et même, je pense que le rôle de l'État, la France, telle une république une et indivisible qui refuse le mot race, a carrément participé de l'invisibilisation des productions théoriques dont tu parlais tout à l'heure. Parce que finalement, au même moment, aux États-Unis, ces productions théoriques voyaient le jour, mais dans une optique, dans un contexte où il y a l'affirmative action, où il y a des sit-ins au sein des universités, et du coup, il y a une visibilisation qu'on n'a pas en France, parce que justement, en France, les études en termes de race n'intègrent pas et n'intègrent jamais, jusqu'à très récemment, l'université, alors qu'elles intègrent les universités américaines au même moment. Et du coup, je pense que même le contexte politique et la manière dont la question est gérée politiquement est crucial.
De même, juste pour rajouter que la récupération du mot race par tous les extrémismes d'extrême droite, de droite et d'extrême droite, en France, mais aussi plus largement en Europe, ce qui rend encore plus ambivalent l'usage du terme race sur le plan analytique pour dénoncer le racisme dans l'organisation et de nos institutions et de notre société.
Finalement, la société américaine est tellement organisée de manière explicite autour de la race, donc il y a des statistiques raciales, etc. Finalement, ça a évidemment des désavantages pour les populations racisées, mais là, pour le coup, ça a eu un avantage, c'est que c'était une notion presque acceptée socialement, de manière générale et explicite, le fait qu'il y avait des races, même si c'est dans un sens biologisant et naturalisant, mais au moins ça a permis notamment l'existence d'affirmative action, donc de la discrimination positive, qui a permis du coup, dès les années 60-70 surtout, à des femmes noires, souvent d'origine prolétaire, d'accéder à des postes dans l'université, des postes de chercheuse ou de professeur, et du coup elles ont pu développer ensuite des théories qui ont créé un gigantesque corpus de réflexions critiques qui a aussi irrigué les milieux militants, qu'il n'y a pas eu en France, parce qu'en France, précisément, la société n'est pas organisée explicitement autour de la race, même si, de facto, la société française est structurellement raciste, et qu'il y a bien des races au sens de populations, de groupes sociaux qui sont à une certaine place dans la société, dans une certaine place dans la division du travail, etc., en vertu de leur race, entre guillemets, et bien précisément le fait que la société française, finalement, ait mis sous le tapis un petit peu sa dimension raciste et finalement laissé le concept de race uniquement à la droite et à l'extrême droite, ça fait que finalement, la gauche républicaine, quand on aborde la question du racisme structurel ou de la race, crie, voilà, s'effraie, dit nazisme, etc. Et ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que la société en son ensemble peut influencer jusqu'aux militants d'extrême gauche les plus anticapitalistes, puisqu'il y a des militants d'extrême gauche anticapitalistes qui ont exactement le même réflexe que des bons républicains libéraux de gauche quand ils entendent le mot race. Et finalement, peut-être pour conclure sur cette question de la consubstantialité des rapports sociaux, de la critique de l'intersectionnalité de Kergoat, de Juteau et de Galerand, on peut se dire, est-ce que finalement c'est pas lié à une vieille hostilité entre les milieux académiques français et les milieux académiques américains, y compris dans le champ féministe. Il y a un petit peu, les critiques de Kergoat et de Galerand, même s'il y a des choses intéressantes dans leurs articles, et que ça pointe certaines limites d'une partie de l'intersectionnalité, il y a un peu une forme presque de jalousie à l'égard du succès de la théorie de l'intersectionnalité, qui est évidemment infiniment plus reprise que celle de la consubstantialité. Et sur certains aspects, du coup, un côté un petit peu, on enfonce des portes ouvertes, on dit des choses qui en fait ont déjà été dites avant ou déjà dites mieux aux États-Unis.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que ça renvoie à ce que Bourdieu et Vacant disaient sur l'invention des concepts en Europe, leur export aux États-Unis, leur relabellisation entre guillemets et leur réexportation vers l'Europe comme des produits neufs de savoir scientifique. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est un tout petit peu caricatural de présenter les choses comme ça, parce que les échanges, surtout les échanges culturels et les échanges de savoir, sont jamais unilatéraux. Donc c'est-à-dire que c'est difficile d'établir un lignage vraiment linéaire de l'intersectionnalité, de son émergence, de ses trajectoires, mais plutôt en fait, je pense qu'on pourrait concevoir ce concept, qui est désormais un concept globalisé, il faut bien le dire, comme quelque chose de foisonnant, une dynamique un peu multifocale avec différents épicentres et donc des couleurs différentes par rapport au contexte géographique, politique, de production de ces différentes pierres de l'édifice qui est devenue l'intersectionnalité. Donc certes, il y a cette vieille jalousie franco-états-unienne qui joue certainement un rôle, mais je pense qu'au-delà de ça, l'histoire et la trajectoire est bien plus complexe et n'est pas du tout unidirectionnelle, mais bien plus en termes d'échange.
Oui, bien sûr, pour Pour prendre un autre exemple, il suffit de voir les allers-retours de la théorie féministe dans les années 70. Les féministes françaises sont inspirées par le mouvement de libération des femmes aux États-Unis, et Christine Delphi va s'inspirer un petit peu de ce qui est déjà produit aux États-Unis. En même temps, ensuite, les féministes américaines vont beaucoup s'inspirer des travaux de Christine Delphi qui vont être rapidement traduits. Et puis ensuite, il va y avoir un débat intercontinental. Donc effectivement, comme tu dis, il y a jamais de... On ne peut pas dire que les Américains ont tout piqué aux Français, aux Françaises. C'est évidemment extrêmement réductionniste.
Et on oublie toutes les contributions postcoloniales au concept d'intersectionnalité qui ont été très très importantes aussi dans son développement.
Oui, d'ailleurs, c'est un des articles du numéro des cahiers du CEDREF sur intersectionnalité et colonialité. Mettait en perspective des critiques de certaines féministes intersectionnelles, par exemple du Brésil ou d'Amérique latine, sur une certaine forme d'ethnocentrisme des États-Unis, c'est-à-dire que finalement toute l'intersectionnalité viendrait des États-Unis et devrait se calquer, alors qu'évidemment il y a des productions théoriques de théories intersectionnelles ailleurs qu'aux États-Unis, et en France d'ailleurs, ailleurs qu'en Occident, entre guillemets, et que évidemment l'intersectionnalité n'est pas utile simplement, il faut vraiment le dire clairement, pas utile simplement aux femmes noires prolétaires aux États-Unis, mais aussi aux femmes racisées en France. Là, ça, il commence à y avoir quand même pas mal d'études intersectionnelles des femmes racisée en France, mais c'est vrai qu'il y a quand même un retard en tout cas en France là-dessus sur les groupes militants qui peuvent s'emparer de ce concept, et aussi dans la production théorique, il n'y a pas encore énormément d'études intersectionnelles en France qui visent du coup, qui essayent d'appréhender le vécu des femmes racisées en France, mais ça commence, le dernier numéro des cahiers du CEDREF justement s'intéresse un petit peu à pas mal d'études de cas justement de vécu intersectionnel en France. Et bien là-dessus, après cette longue discussion, nous allons faire une pause musicale avant d'aborder dans la troisième partie à la fois la question des usages militants pertinents de l'intersectionnalité, donc ce sera un petit peu programmatique entre guillemets, et puis un petit peu essayer de synthétiser tout ce qu'on a dit à un niveau théorique.
You waiting? Who you calling a bitch?
You and I, T.Y.
fixed a bitch now that you saw a Apache's video. I saw you wildin', acting like a fool. I peeped you out the window, jumping girls after school. But where did all of this come from? A minute ago, you was a nerd and nobody ever heard of you. Now you a wannabe. You barely know your ABC. There's plenty of people out there with triggers ready to pull it. Why you trying to jump in front of the bullet? Young lady, and real bad girls are the silent type. Yeah. Ain't none of this worth getting your face sliced, 'cause that's what happened to your